bonjour, heureuse de vous retrouver à cette rentrée pour une nouvelle émission quotidienne, Le fil de l'histoire, une chronique de 10 minutes consacrée à un sujet qui sera décliné sur la semaine. Toute l'histoire nous intéressera, politique, économique, sociale, littéraire, artistique. Par la magie du récit, nous tenterons de faire revivre ce que nos aînés, nos ancêtres ont traversé. Et en compagnie d'un historien ou d'une historienne, nous essaierons de mieux comprendre ce qui parfois nous semble une évidence et qui, au-delà des certitudes, est parfois plus complexe qu'il n'y paraît. Les Grecs ont-ils inventé la démocratie? Le Moyen-Âge fut-il l'âge sombre des démons et des sorcières? Hitler a-t-il été élu au suffrage universel? La Révolution française doit-elle tout aux philosophes des Lumières? Quelques-unes des nombreuses questions que nous nous poserons. Pour débuter cette nouvelle émission, je vous propose de revenir sur un événement capital survenu il y a 80 ans, Hiroshima. En 1945, la première bombe atomique allait mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et faire entrer le monde dans la guerre froide et dans ce qu'on appellera l'ère nucléaire. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'horreur d'Hiroshima? Pour les uns, Hiroshima, symbole poussé à son paroxysme de la barbarie humaine, aurait pu être évité. Pour les autres, Hiroshima était le seul moyen de faire capituler les Japonais et d'épargner des centaines de milliers de vies. Olivier Vieillorca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, l'auteur d'une monumentale Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, éditée en 2023 chez Perrin. Et c'est avec vous, toute cette semaine, que nous essaierons de répondre à ces questions.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
6 août 1945, il est 8h15 du matin, heure japonaise, lorsque les Américains font exploser une bombe au-dessus de la ville d'Hiroshima. Ce n'est pas une bombe ordinaire, comme celle que depuis des mois, les B-29 américains font pleuvoir sur le Japon pour tenter de le faire capituler. Cette bombe est spéciale, inédite, d'une force inconnue et on le verra très vite, terrifiante. Il s'agit de la première bombe atomique utilisée en temps de guerre. En un instant, la bombe anéantit 70 000 personnes et détruit tout dans un rayon de 12 km. Ceux qui ne meurent pas sur le coup souffriront pour longtemps de brûlures, de lésions internes, d'irradiations aiguës, de cancers. Pour longtemps aussi, les radiations pollueront les eaux et les sols. 3 jours plus tard, une seconde bombe atomique est larguée sur une autre ville japonaise, Nagasaki, causant les mêmes destructions et les mêmes souffrances. Le 15 août 1945, enfin, le Japon capitule. La guerre du Pacifique, qui a débuté 4 ans plus tôt avec l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, se termine enfin, victorieuse pour les Alliés. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas achevée avec la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Le Japon, l'allié d'Hitler, lui, n'abandonnait pas le combat. La guerre du Pacifique, que nous, Français, étudions peu à l'école, que nous connaissons surtout par le cinéma américain, fait encore rage au printemps 1945.
Alors, il faut bien rappeler qu'au printemps 1945, l'Allemagne, vous l'avez dit, a déposé les armes, mais que le Japon continue la lutte. Alors, le Japon continue la lutte d'une part en Chine. Il a lancé une grande offensive qui a été relativement victorieuse, l'offensive Ichigo. L'essentiel, cependant, se joue dans le Pacifique, où les Japonais résistent. Ils se sont taillés un empire depuis leur raid sur Pearl Harbor du 7 décembre 1941.
Oui, parce que ce n'est pas du tout le Japon actuel. C'est un Japon conquérant qui s'est donc constitué un empire énorme.
Le Japon, oui, s'est donc constitué un empire énorme. Parce que, pour aller vite, la crise des années 30 l'a durement frappé et qu'il est très angoissé par, d'une part, la nécessité d'écouler ses produits et, d'autre part, l'impératif d'obtenir des matières premières. Et ces matières premières, il espère les obtenir d'abord en Chine et ensuite dans le Pacifique, pétrole d'Indonésie, caoutchouc des Philippines, etc. Mais à partir de 1942, vous avez eu un coup d'arrêt et les Américains entament la guerre contre le Japon. Et leur idée, au fond, c'est d'encercler le Japon en bondissant d'île en île pour disposer d'un certain nombre de bases qui lui permettront de bombarder l'archipel avant de débarquer.
Et comment décrire le régime du Japon ? C'est une dictature ? C'est quoi ? C'est un...
C'est donc un empire. La question est de savoir si c'est un fascisme. En règle générale, les historiens ne pensent pas qu'il s'agisse d'un fascisme. Vous n'avez pas véritablement de parti unique, vous n'avez pas de prise en main totalitaire de la population, mais dans le même temps, on n'est pas non plus simplement dans une dictature. Le Japon a d'autres ambitions, il modèle au fond sa population pour la transformer en une population guerrière, que ce soit des soldats ou que ce soit des producteurs. Donc, si vous voulez, on est dans un système un peu intermédiaire entre une dictature au sens classique du terme et un régime fasciste.
Et le Japon est l'allié d'Hitler.
Effectivement, vous avez eu un pacte qui a été signé entre le Japon, l'Allemagne et l'Italie, qui font de ces trois puissances des puissances solidaires, qui devraient donc combattre d'un même pas. Mais dans le même temps, au fond, chacun mène sa guerre. C'est-à-dire que la coopération stratégique est très faible. Exemple, en juin 1941, Adolf Hitler décide d'envahir l'Union soviétique. Non seulement il ne prévient pas le Japon, mais au fond, lorsqu'il va demander au Japon d'intervenir contre l'Union soviétique, le Japon va refuser. Chacun combat en silo sur son théâtre d'opération.
À partir de mars 1945, les Américains décident de bombarder massivement le Japon.
À l'autre bout du monde, les pilotes américains installés sur l'île de Saipan préparent leur premier grand raid contre Tokyo. Tokyo, l'immense capitale japonaise, se croyait à l'abri des coups. Mais Tokyo reçoit des bombes, elle aussi. Le Japon n'est plus invulnérable.
L'objectif est de détruire des cibles stratégiques, mais ces bombardements vont aussi provoquer la mort de plus de 500 000 civils japonais. Les Japonais pourtant ne fléchissent toujours pas. Par exemple, au printemps 45, alors que la bataille est d'évidence perdue, le général Mutaguchi, en Birmanie, continue de dire à ses soldats « La lutte s'est muée en un combat opposant la force matérielle de l'ennemi et notre force spirituelle ». Continuez votre tâche jusqu'à ce que vos munitions soient épuisées. Si vos mains sont brisées, poursuivez le combat avec vos pieds. Si vos mains et vos pieds sont brisés, utilisez vos dents. Si votre corps n'a plus d'air, combattez avec votre esprit. Le manque d'armes n'est pas une excuse pour la défaite.
Alors, la question du fanatisme japonais est une question très débattue parce que nous, en France, nous connaissons mal, hormis quelques aficionados, le Japon, et c'est au fond quelque chose d'assez commode. Je crois qu'il faut un peu revenir sur l'idée de fanatisme. L'un des exemples les plus canoniques, c'est celui des kamikazes, donc ces avions qui ne font qu'un aller, hein, puisque logiquement, ils s'écrasent sur les coques des navires. Logiquement, ils sont présentés comme des volontaires. Dans les faits, on le voit bien, ce sont très souvent des volontaires désignés qui n'ont pas le choix. Mmh. Donc, effectivement, vous avez une ardeur au combat des Japonais qui s'explique pour des raisons culturelles. Il est extrêmement mal vu, par exemple, d'être prisonnier. Les Japonais sont très surpris que les Américains ou les Britanniques prisonniers demandent à correspondre avec leur famille, parce que c'est considéré comme une honte, et une honte qui rejaillit sur vous, sur votre famille, sur votre clan, sur votre village. D'autre part, il est clair aussi que, comme les Japonais traitent très mal les prisonniers, ils imaginent qu'ils vont subir le même sort, et donc c'est effectivement un argument pour se battre.
On a parlé de barbarie de la part des Japonais.
Les Japonais traitent extrêmement durement leurs prisonniers de guerre. Cela veut dire qu'ils sont battus, très souvent, humiliés, torturés. Ils ont également très peu de nourriture. Et lorsque vous avez des prisonniers de guerre qui réussissent à s'évader et qui racontent à l'opinion publique, aux journalistes, ce qu'il se passe, eh bien c'est véritablement l'horreur, l'effroi qui domine. Et cet élément explique aussi Hiroshima, nous y reviendrons.
Merci Olivier Viaviorca. Dans le prochain épisode, nous parlerons du projet Manhattan, comment les Américains ont misé secrètement sur la recherche atomique pour devancer les nazis pour fabriquer une bombe d'une puissance inédite. Une bombe qui finalement, on le sait, sera lancée non sur l'Allemagne nazie, mais sur le Japon.